Mise à jour, Cour suprême.
Rogers Communication Inc. contre Voltage Pictures, LLC. 2018 CSC 38. Résumé. Les intimés sont des sociétés de production cinématographique qui allèguent que leurs droits d'auteur ont été violés en ligne par des abonnés à Internet non identifiés qui ont partagé leurs films à l'aide de réseaux de partage de fichiers poste à poste. Elles ont poursuivi l'un de ces inconnus et ont présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance de type Norwich pour obliger son fournisseur de services Internet, FSI, Rogers, à leur communiquer les coordonnées et les renseignements personnels de cet inconnu. Les intimés ont demandé que l'ordonnance de communication soit rendue sans aucun droit à payer à Rogers sur le fondement des articles 41.25 et 41.26 de la Loi sur le droit d'auteur. Ces dispositions, appelées régime d'avis et avis, prévoient que le FSI doit, à la réception d'un avis envoyé par le titulaire du droit d'auteur dans lequel il affirme qu'une personne à une certaine adresse IP a violé son droit d'auteur, transmettre cet avis de prétendue violation à la personne à qui appartient l'adresse IP. Elles interdisent également au FSI d'exiger des droits pour se conformer aux obligations que leur impose le régime. Le juge des requêtes a ordonné l'ordonnance de type Norwich et a autorisé Rogers à recouvrer les coûts de toutes les mesures qui étaient nécessaires pour se conformer à celle-ci. Il a conclu que bien que le régime législatif d'avis et avis réglemente le processus par lequel un avis de prétendue violation du droit d'auteur est donné, tant à un FSI qu'à un abonné à Internet, ainsi que la conservation d'un registre concernant cet avis, il ne réglemente pas la communication par le FSI de l'identité d'un abonné au titulaire du droit d'auteur. La Cour d'appel fédérale a convenu avec le juge des requêtes que le régime législatif d'avis et avis ne régit pas la communication de l'identité d'une personne à partir du registre d'un FSI, mais elle a limité le recouvrement de Rogers aux coûts occasionnés pour se conformer à l'ordonnance de type Norwich qui ne chevauchait pas les mesures faisant partie des obligations implicites de Rogers dans le cadre du régime législatif. Rogers a porté cette décision en appel. Arrêt. Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée au juge des requêtes afin qu'il établisse le montant auquel a droit Rogers quant au coût raisonnable qu'elle a occasionné pour se conformer à l'ordonnance de type Norwich. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin. Un FSI peut recouvrer les coûts occasionnés pour se conformer à une ordonnance de type Norwich, mais il ne devrait pas être indemnisé pour chacun des coûts qu'il supporte en vue de se conformer à une telle ordonnance. Les coûts recouvrables doivent être raisonnables et découler de la conformité à l'ordonnance de type Norwich. Lorsque les coûts auraient dû être supportés par le FSI dans l'exécution de ses obligations légales dans le cadre du régime d'avis et avis, ces coûts ne peuvent être considérés comme raisonnables ou comme découlant de la conformité à une ordonnance de type Norwich et ne peuvent être recouvrés. Le régime d'avis et d'avis a été adopté afin de réaliser deux objectifs complémentaires, dissuader la violation en ligne du droit d'auteur et établir un équilibre entre les droits des parties intéressées, y compris les titulaires de droits d'auteur, les internautes et les intermédiaires de l'Internet comme les FSI. Il n'avait pas pour but d'établir un cadre exhaustif au moyen duquel les cas de violation en ligne du droit d'auteur pourraient être totalement éliminés, et il ne va pas jusqu'à exiger que les FSI révèlent au titulaire du droit d'auteur l'identité d'une personne qui a reçu un avis. En conséquence, le titulaire qui souhaite poursuivre une personne qui aurait violé son droit d'auteur en ligne doit prendre des mesures à l'extérieur du régime d'avis et avis et obtenir une ordonnance de type Norwich pour obliger le FSI à lui communiquer l'identité de cette personne. Le régime législatif d'avis et avis n'a pas écarté cette exigence. Il fonctionne de concert avec elle. De même, le régime d'avis et avis n'a pas écarté le fardeau du titulaire du droit d'auteur, en common law, de supporter les coûts raisonnables occasionnés par le FSI pour se conformer à l'ordonnance de type Norwich. Cependant, le régime législatif interdit au FSI d'exiger des droits pour l'exécution de l'une ou l'autre de ses obligations découlant du régime. En conséquence, un FSI ne devrait pas être autorisé à recouvrer le coût des mesures prises pour l'exécution de l'une ou l'autre des obligations, expresses ou implicites, qui ont déjà pris naissance sous le régime, même lorsqu'il s'acquitte de ses obligations seulement après avoir reçu signification d'une ordonnance de type Norwich. Autrement, la répartition du fardeau financier qu'a établi le Parlement serait minée puisque cela aurait pour effet d'imposer au titulaire de droit d'auteur une obligation qui a été spécifiquement attribuée au FSI dans le cadre du régime d'avis et d'avis. Les trois obligations expresses énoncées aux alinéas 1A et B de l'article 41.26 de la loi sur le droit d'auteur comportent plusieurs obligations implicites dont le FSI doit s'acquitter dans le cadre du régime d'avis et d'avis. Puisque ces obligations implicites sont des mesures nécessaires pour que ces obligations légales expresses soient remplies, le FSI ne sera pas autorisé à recouvrer le coût à l'étape de la conformité à l'ordonnance de type Norwich. Plus précisément, à l'alinéa 1A de l'article 41.26, exige que le FSI établisse, aux fins de la transmission d'un avis par voie électronique, l'identité de la personne à qui appartient l'adresse IP. Il exige également que le FSI prenne toutes les mesures nécessaires pour vérifier qu'il l'a fait correctement. De même, le registre que le FSI doit conserver au terme de l'alinéa 1B de l'article 41.26 doit être exact. Toute mesure nécessaire pour la vérification de l'exactitude de ce registre fait donc partie des obligations du FSI. Toutefois, il existe une distinction entre l'obligation du FSI dans le cadre du régime d'avis et d'avis d'assurer l'exactitude de son registre permettant d'identifier le propriétaire d'une adresse IP et son obligation, au terme d'une ordonnance de type Norwich, d'identifier effectivement une personne à partir de son registre. Bien que le registre que le FSI doit conserver au terme de l'alinéa 1B de l'article 41.26 doive l'être sous une forme et d'une manière permettant à un FSI d'établir le nom et l'adresse de la personne à qui l'avis est transmis au terme de l'alinéa 1A de l'article 41.26, l'alinéa 1B de l'article 41.26 n'exige pas qu'il soit conservé sous une forme et d'une manière qui permettrait à un titulaire de droit d'auteur ou à un tribunal de le faire. Le titulaire du droit d'auteur serait toutefois autorisé à recevoir ces renseignements du FSI au terme d'une ordonnance de type Norwich dont le processus ne relève pas des obligations du FSI dans le cadre du régime d'avis et avis. Un FSI a donc droit au coût raisonnable des mesures nécessaires pour discerner l'identité d'une personne à partir du registre exact conservé au titre de l'alinéa 1B de l'article 41.26. Étant donné l'interdiction légale relative au recouvrement des coûts découlant du régime d'avis et avis, les juges des requêtes devraient examiner attentivement la preuve du FSI lorsqu'ils évaluent les coûts occasionnés par le FSI pour se conformer à l'ordonnance de type Norwich afin de décider si les droits qu'il propose sont raisonnables à la lumière des obligations qui lui incombent dans le cadre du régime d'avis et avis. Dans le cas présent, Rogers a droit au coût raisonnable occasionné pour se conformer à l'ordonnance de type Norwich. Cependant, le juge des requêtes a omis de déterminer la pleine portée des obligations du FSI au terme du paragraphe 1 de l'article 41.26 et a omis de se demander si l'une ou l'autre des 8 étapes du processus manuel qu'entreprend Rogers lorsqu'elle doit communiquer l'identité de l'un de ses abonnés chevauche les obligations légales de Rogers pour lesquelles elle n'avait pas droit à un remboursement. Puisqu'il est impossible, au vu du présent dossier, de déterminer les coûts raisonnables occasionnés par Rogers pour se conformer à l'ordonnance, l'affaire devrait être renvoyée au juge des requêtes. La juge Côté. Il y a un accord avec les juges majoritaires pour accueillir le pourvoi. Cependant, il y a désaccord avec la proposition voulant que toutes les obligations implicites découlant du paragraphe 1 de l'article 41.26 de la loi sur le droit d'auteur empêchent catégoriquement un FSI de vérifier certains éléments de son registre au moment où il reçoit l'ordonnance de type Norwich et de demander une indemnisation pour ses travaux. Ensemble, les alinéas 1A et B de l'article 41.26 indiquent clairement que le FSI n'est pas tenu d'établir l'identité de la personne qui aurait violé le droit d'auteur. En conséquence, le travail nécessaire pour établir l'identité de la personne qui aurait violé le droit d'auteur et pour communiquer cette identité conformément à une ordonnance de type Norwich n'est pas inclus dans le régime d'avis et avis et peut donc faire l'objet d'une indemnisation en application de la Common Law. Le régime de Common Law établi dans Norwich permet au FSI d'être indemnisé pour les coûts raisonnables occasionnés pour se conformer à l'ordonnance. Aucune des 8 étapes que suit Rogers en réponse à une ordonnance de type Norwich n'est supplantée par le régime d'avis et avis, puisqu'elle ne comporte pas la vérification de l'exactitude du registre que Rogers est tenu de conserver au terme du paragraphe 1 de l'article 41.26. Rogers suit plutôt ce processus afin d'établir et de vérifier l'identité de la personne qui aurait violé le droit d'auteur, qu'elle ne connaît pas déjà, en fonction de ce registre. Si l'on suppose que ce processus en 8 étapes est par ailleurs raisonnable, Rogers a droit à la pleine indemnisation pour les étapes qu'elle suit afin d'identifier un titulaire de compte et de communiquer son identité au titulaire du droit d'auteur. Il y a aussi des accords avec la proposition voulant que toute obligation implicite découlant du paragraphe 1 de l'article 41.26 de la loi sur le droit d'auteur empêche catégoriquement un FSI de vérifier certains éléments de son registre au moment où il reçoit l'ordonnance de type Norwich et de demander une indemnisation pour ses travaux pour deux raisons. Tout d'abord, les renseignements relatifs aux clients peuvent changer au fil du temps, et une ordonnance de type Norwich peut être reçue bien après l'envoi initial de l'avis de violation au titulaire de compte. Il demeure nécessaire de vérifier l'exactitude de ces renseignements au moment où le titulaire du droit d'auteur demande l'identité du titulaire de compte, puisque ce sont les renseignements actuels permettant l'identification du titulaire de compte dont le demandeur a besoin afin d'intenter une action pour violation du droit d'auteur et non les renseignements d'identification qui existaient quand l'avis automatisé de violation a été envoyé. Ensuite, il est possible que les avis de violation ne soient pas tous envoyés au bon titulaire de compte conformément à l'alinéa 1A de l'article 41.26. En conséquence, et même si certaines étapes du processus de Rogers relatif aux ordonnances de type Norwich pouvaient être qualifiées de vérification des renseignements ou registres préexistants, rien dans la loi sur le droit d'auteur ne justifie de façon incontestablement claire qu'une démarche censée pour établir ce qui est raisonnable soit écartée sur le fondement d'une obligation implicite qui découlerait du paragraphe 1 de l'article 41.26. Dans ces circonstances, il pourrait être justifié que Rogers effectue des vérifications plus rigoureuses. Cela dit, les juges ont le pouvoir de refuser le remboursement des coûts de ces vérifications si le FSI procède inutilement à des vérifications approfondies ou redondantes. Dans la présente affaire, le juge des requêtes n'a pas tiré une conclusion indépendante quant au caractère raisonnable du processus en 8 étapes de Rogers. En conséquence, la présente affaire devrait être renvoyée au juge des requêtes pour qu'il prenne une telle décision.